Décidément, tout un chacun me soupçonne et se défie de moi, pensa la comtesse.
Jeanne de Poitiers feignait de ne rien remarquer. Gaucher de Châtillon, qui était hors d'affaire, brisa la gêne en disant
« Allons, Bouville, ne nous laissez point geler, entrons donc !»
On ne se rendit pas au chevet de la reine. Les nouvelles que donna Madame de Bouville étaient fort alarmantes. La fièvre continuait de dévorer la malade qui se plaignait d'atroces maux de tête et était secouée à tout instant par des nausées.
« Son ventre se remet à gonfler, comme si elle n'avait point accouché, » expliqua Madame de Bouville. « Elle ne peut trouver le sommeil. Supplie qu'on arrête les cloches qui lui sonnent aux oreilles et nous parlent sans cesse, comme si elle s'adressait non point à nous, mais à sa grand-mère, Madame de Hongrie, et au roi Louis. C'est pitié que de l'entendre ainsi perdre la raison sans pouvoir la faire taire. »
20 ans de métier de chambellan auprès de Philippe le Bel avaient laissé au comte de Bouville une longue expérience des cérémonies royales. Combien de baptêmes déjà n'avait-il pas réglés ? Les objets rituels furent distribués aux assistants. Bouville et 2 gentilshommes de la garde se passèrent au col de longues serviettes blanches dont ils tenaient les extrémités étendues devant eux pour en recouvrir l'un le bassin empli d'eau bénite, l'autre le bassin vide, le troisième la coupe qui contenait le sel. La ventrière prit le crémeau dont on coifferait l'enfant après l'onction. Puis la nourrice s'avança, portant le roi.
« Oh, la belle fille que voilà !»
pensa le connétable. Madame de Bouville avait fait revêtir à Marie de Cressay une robe de velours rosé, avec un peu de fourrure au col et au poignet, et elle avait fait répéter longuement à la jeune femme les gestes qu'elle aurait à accomplir. Le bébé était empaqueté dans un manteau 2 fois plus long que lui, sur lequel était posé un voile de soie violette qui tombait jusqu'au sol, comme une traîne. On se dirigea vers la chapelle du château. Des écuyers ouvraient la marche, tenant des cierges allumés. Le sénéchal de Joinville venait le dernier, soutenu et pourtant chancelant. Néanmoins, il était un peu sorti de sa torpeur habituelle parce que le nouveau-né s'appelait Jean, comme lui-même. La chapelle était tendue de tapisserie et la pierre des fonds était garnie de velours violet. À côté se trouvait une table où l'on avait étendu une couverture de menu vert et par-dessus une nappe fine et par-dessus encore placé des coussins de soie. Quelques grilles à braise ne suffisaient pas à dissiper l'humide froideur. Marie déposa l'enfant sur la table pour le démailloter. Attentive à ne point faire d'erreur, elle avait le cœur battant et distinguait à peine les visages autour d'elle, tant elle était émue. Aurait-elle jamais imaginé, elle, fille chassée de sa famille, qu'il lui appartiendrait de tenir un rôle si important dans le baptême d'un roi, entre le régent de France et la comtesse d'Artois? Éblouie par ce retour de fortune, elle était pleine de gratitude, à présent, pour Madame de Bouville, et lui avait demandé pardon de son insoumission de la veille. Tout en déroulant les langes, elle entendit le connétable s'informer de son nom et d'où elle venait. Elle se sentit rougir. Le chapelain de la reine avait soufflé 4 fois sur le corps du nouveau-né, comme aux 4 branches d'une croix, pour ôter de lui le démon par la vertu du Saint-Esprit. Puis, crachant sur son index, il lui avait tendu de salive les narines et les oreilles pour signifier qu'il ne devait pas écouter les voix du diable, ni respirer les tentations du monde et de la chair. Philippe et Mao soulevèrent le petit roi, l'un par les jambes, l'autre par les épaules. Le régent, de ses yeux myopes, considérait avec insistance le sexe minuscule de l'enfant, ce rose vermisseau qui mettait en échec toute sa savante combinaison successorale, ce dérisoire symbole de la loi des mâles, infime mais infranchissable obstacle entre lui et la couronne. « De toute manière, » pensait Philippe pour se consoler, « je suis régent durant 15 années. En 15 ans, bien des choses peuvent survenir. Serai-je moi-même vivant dans 15 ans? Et cet enfant vivra-t-il jusque-là? Mais régence n'est pas royauté. » L'enfant était resté fort calme et même somnolent pendant les rites préliminaires. Il ne fit entendre sa voix que lorsqu'on le plongea entièrement dans l'eau froide, mais alors il hurla jusqu'à s'étrangler par 3 fois tandis que les autres parrains et marraines, Gaucher, Jeanne de Poitiers, les Bouville, le sénéchal, étendaient les mains au-dessus de son petit corps nu. Il fut immergé, d'abord avec la tête vers l'orient, puis au nord, puis au sud, pour figurer le dessin de la croix. Jean Ier se calma aussitôt qu'on l'eut sorti du bain glacial et accepta paisiblement le saint crème dont on lui oignit le front. Puis, on le reposa dans les coussins où Marie de Cressay se mit à le sécher, tandis que les assistants se tassaient au plus près de la chaleur des poêles à braise. Soudain, la voix de Marie de Cressay emplit la chapelle.
« Seigneur, Seigneur, il trépasse !»
s'écria-t-elle. Tous se projetèrent vers la table. Le bébé roi avait pris une teinte bleue qui fonçait d'instant en instant jusqu'à devenir noirâtre. Il avait le corps raidi, les bras crispés, la tête tordue et ses paupières ouvertes ne laissaient apparaître que des globes blancs. Une main invisible étouffait cette vie sans conscience, entourée de cierges vacillants et de fronts anxieusement penchés. Mao entendit murmurer « C'est elle !» Elle releva les yeux et rencontra le regard du ménage Bouville. « Qui a donc fait le coup pour m'en charger ?» se demanda-t-elle. Cependant, l'aventrière avait pris l'enfant des mains tremblantes de Marie et s'efforçait de le ranimer.